Bonjour à tous et bienvenue dans Encore Heureux. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière, une première pour Encore Heureux, puisque je reçois l'écrivaine Anouk Lejzik, auteur de Félis Silvestris, paru aux éditions du Penseur au mois de janvier. Anouk, bonjour.
Bonjour.
Avant de nous plonger dans ton roman, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours, qui est riche et singulier, et qui a commencé donc à Bourg-en-Bresse, dont tu es native, je crois.
En effet. Oui, je suis née à Bourg-en-Bresse et j'y ai fait ma scolarité jusqu'au bac. J'étais étudiante au lycée Lalande. Après ça, j'ai fait une classe préparatoire littéraire à Annecy. Puis 3 ans de Beaux-Arts à Toulouse. Suite à ça, j'ai voyagé et réalisé 2 films documentaires. Un au Pérou, qui s'appelle Asinomas, et le second en Casamance, qui s'appelle Permacabadio. Et suite à ça, j'ai décidé de reprendre mes études à Paris, au Master de création littéraire de Paris 8, parce que je ressentais le désir de m'atteler plus concrètement à l'écriture, que je faisais un peu en dilettante jusqu'alors. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de me lancer dans l'aventure de mon roman.
Très bien. Donc tu as tourné au Pérou, dans la forêt amazonienne, et au Sénégal. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous raconter comment ça se passait là-bas?
Oui. Ce sont deux voyages qui sont un peu issus d'heureux hasards, on va dire, qui n'étaient pas vraiment prémédités. Au Pérou, j'y suis restée 6 mois et je vivais avec un jeune homme dans un village de la région Madre de Dios. Et donc voilà, c'était un quotidien de promenade et de travail en forêt, principalement. Au Sénégal, j'ai participé à un projet de permaculture qui était co-mené par une association du Beaujolais qui s'appelait à l'époque IEFR. Que les villageois se sont bien appropriés en montant un lieu collectif de jardinage, quoi, de maraîchage en permaculture. Et le film que j'ai réalisé était pendant un temps de rencontre entre des Européens et des villageois et des villageoises là-bas qui bossaient dans le jardin ensemble.
D'accord. Travail, permaculture et balade en forêt, ça ressemble un petit peu au paradis tout ça. Hein. Revenons-en à ton premier roman, Félis Silvestris. Donc, il met en scène une jeune femme qui paraît assez sensible, un peu perdue, qui s'est réfugiée de façon temporaire, on le comprend, dans l'appartement d'une amie. Et alors, cette jeune femme est un peu particulière. Elle range ses livres sur les rayons du frigo. Elle s'occupe aussi de nourrir une horde de vers de terre dans un lombricomposteur de fortune. Et elle déambule comme ça dans la ville, elle va dans les cafés, elle cherche du travail. Et elle parle beaucoup de sa famille, elle évoque beaucoup des souvenirs familiaux. Et elle s'adresse à sa sœur. Et sa sœur qui, elle, est partie rejoindre un groupe d'activistes dans une forêt menacée de destruction. Et c'est la jeune narratrice qui décrit en fait la vie de cette sœur en s'adressant à elle, à la seconde personne, directement en lui disant « tu ». Peux-tu nous dire, Anouk, qui est Félis Silvestris ?
Alors, Félis Silvestris, c'est le nom scientifique du chat sauvage. Donc, il y a un animal qui vit dans nos forêts tempérées en Europe, qu'on croise peu. Personnellement, j'en ai jamais croisé encore, mais j'espère. Et dans mon livre, Félis Silvestris, c'est le nom de forêt que prend la grande sœur, donc à qui le récit s'adresse. Et donc elle prend ce nom parce que dans le milieu activiste dans lequel elle arrive, il est d'usage de se rebaptiser. Et c'est en fait sa sœur, la narratrice, qui l'aide dans la fiction à choisir ce nom.
D'accord. Et ces deux sœurs, donc la narratrice qui est la petite sœur, donc et la Félis Silvestris qui est la grande sœur, qui est dans la forêt, chacune à leur manière, on peut dire qu'elles cherchent un petit peu leur place dans le monde. On pourrait aussi les voir finalement comme une seule et même personne. Il y aurait d'un côté en fait la part ou la sœur qui hésite, qui cherche sa place, comme je l'ai dit, et puis l'autre qui, comme tu l'écris, a tiré un coup de fusil en l'air et donc a vraiment pris sa décision, est parti sur un coup de tête, a coupé les ponts avec sa famille et vit au fond de la forêt. Est-ce que ces deux parties, est-ce que c'est pas finalement... Est-ce que la sœur dans la forêt n'est pas un double, en fait, fantasmé de la narratrice? Est-ce que c'est pas simplement une projection? Est-ce qu'il y a deux sœurs ou est-ce qu'il y en a qu'une?
Ça, c'est la question que pose le livre. Alors, je vais pas y répondre pour laisser chacun et chacune s'en faire son idée. Mais en effet, elles sont assez réversibles, ces deux femmes. Et le choix d'utiliser le je et le tu pour l'énonciation contribue à ça, en fait. Parce que ce sont les deux personnes dans la grammaire qui sont vraiment personnelles, en fait, et qui, là implique quasiment nécessairement l'autre. Et dans cette histoire, oui, elles partagent, en fait, une même quête, des mêmes doutes, mais les vivent chacune à leur façon, selon leur contexte, mais aussi avec quelques différences psychologiques qu'on comprend au fil du texte, des manières de manifester leurs doutes différentes. Et peut-être que Félice, qui est partie vivre en forêt, peut-être vue comme une version exagérée de la narratrice. Peut-être que ce serait la narratrice qui aurait fait d'autres choix.
Une version augmentée, presque.
Voilà. Et telles que le sont parfois les sœurs dans les fratries ou sororité. Mm-hmm. je ne sais plus le mot.
Sororité, oui.
Oui, mais pour fratrie.
Pour fratrie. Ah oui, le pendant de fratrie.
Oui.
J'ai pas d'autre idée à part sororité, mais il y a peut-être un mot, oui, qui existe.
Parce que oui, sororité, c'est plutôt le pendant féminin de fraternité.
Fraternité, bien sûr, oui.
Bon, bref,
on verra plus tard.
On cherchera. Donc, je sais plus ce que je disais, du coup.
Donc, oui, on parlait de ce double, en fait, ces deux sœurs qui sont en quête du sens et de la place qu'elles ont dans le monde, mais qui n'y répondent pas du tout de la même façon. En fait, il y en a une qui semble beaucoup plus timorée, c'est pas le mot, mais... Et l'autre qui est plus téméraire, qui fonce et qui part.
Oui. Alors, je ne sais pas si elles n'y répondent pas du tout de la même façon. En tout cas, elles sont à deux moments différents de leur vie. Et je pense que ce texte, c'est ça aussi. C'est une chronique, en fait, le temps d'un hiver. Et je le perçois vraiment comme ça, comme une saison de vie, que ce soit pour la narratrice ou pour la sœur aînée à laquelle elle s'adresse. Et c'est comme une phase qui en amène d'autres. Alors peut-être que la narratrice deviendra Félice, ou peut-être que Félice deviendra la narratrice finalement, puisque elle continue d'évoluer après le texte. Et voilà, c'est ce qu'aussi la fin ouverte laisse supposer.
Vont-elles se confondre finalement? Et au-delà de ces deux sœurs, la famille occupe vraiment une place importante dans ton livre. Tu brosses par petites touches le portrait de la mère, du père. La mère qui s'inquiète beaucoup d'ailleurs pour cette fille partie dans la forêt, qui a peur que sa fille ait froid. Hein, ça revient très souvent, voilà, la peur de que sa fille ait froid. Et le père, lui, a peur que sa fille se fasse mordre ou piquer, je ne sais pas comment on dit, par les tiques. Hein, ça, c'est une obsession qu'il a, cette crainte qu'un tic lui transmette la maladie de Lyme, comme il dit, donc à la façon américaine. La maladie de Lyme, ce qui est la même maladie, évidemment. Donc, cette famille, comme ça, est vraiment en toile de fond. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi, les souvenirs familiaux font vraiment, oui, une toile de fond au roman. Est-ce que c'est important? Est-ce que cette place est vraiment centrale dans le livre?
Oui. De manière assez simple, c'est ce qui relie les deux sœurs, déjà leur noyau familial. Alors, les tiques mordent. et le père se focalise là-dessus, tandis que la mère se focalise sur le froid, essentiellement. Et en fait, ces inquiétudes-là oui, qui se condensent sur un objet, en fait, en révèlent plein d'autres, qui sont aussi... parce qu'en fait, ces personnages, on y accède via la narratrice, toujours. Donc, ce sont aussi des... peut-être des inquiétudes de la narratrice que les parents relient. Après tout, on ne sait jamais finalement qui dit quoi, si ce n'est la narratrice. Et en fait, c'est un livre quand même assez inquiet, parce que les personnages passent plus de temps à s'inquiéter les uns pour les autres qu'à faire des choses ensemble. Je pense que c'est une composante assez vraie, je pense, dans la plupart des familles, où quand on vit de manière éclatée comme ça, plus dans le même foyer, en fait, les projections remplacent bien souvent le vivre ensemble, et c'est ce qui est à la fois difficile et beau aussi, cette inquiétude qui demeure, cette préoccupation, pour le dire de manière un peu plus positive, qui demeure les uns les unes pour les autres. Et voilà, moi en tant qu'autrice aussi, je pense que j'avais besoin d'en passer par une réflexion sur la famille, puisque comme tout un chacun, je suis habitée par mon propre vécu familial et celui de mes proches. Et c'est un matériau, je pense, qui était en moi, dont il fallait que je fasse quelque chose, donc que j'ai transformé là, à travers cette fiction. Mais d'une certaine manière, je pense qu'il fallait que j'en passe par là avant de pouvoir peut-être écrire autre chose. Mais après, certains et certaines écrivent sur leur famille toute leur vie, et c'est inépuisable.
C'est un
en fait.
Sujet inépuisable, oui. Oui. Mais je pense que c'est assez fréquent lors d'un premier livre que la famille surgisse comme ça d'une façon assez assez pleine, hein, enfin assez
oui,
prégnante.
C'est vrai. Ouais. Moi, ça m'ennuie de faire partie de cette masse de jeunes auteurs qui écrivent sur leur famille pour leur première œuvre, mais en fait, j'en comprends aussi la nécessité, parce que c'est voilà, la famille, c'est notre première communauté, et peut-être que pour pouvoir parler d'autres communautés, il est intéressant de parler de celle-ci.
Oui. Alors, la mère considère ce départ dans la forêt de sa fille aînée comme une folie. Le père, lui, parle de liberté. Alors, liberté ou folie?
Bon, je pense que l'un et l'autre sont finalement des concepts creux. Parce que, ou en tout cas, insuffisants. Ils existent en contraste d'autres concepts absents qui mériteraient d'être définis. Donc, la mère crie à la folie parce que elle a une certaine idée de la norme, pas la norme pour la norme, mais parce que une certaine norme est rassurante, et c'est comme ça que cette mère a bâti sa vie sur des jalons assez rassurants que là ses filles font exploser. Le père qui crie à la liberté, crie contre ce qu'il croit être des chaînes dans sa vie, qui seraient le travail, le capitalisme et tous les grands mots qu'il peut employer sans les approfondir vraiment, tout en se leurrant sans doute sur le sens de cette liberté qu'il prône, parce que dans le livre, c'est finalement un homme très seul et...
Et qui a des problèmes aussi, oui.
Oui, voilà, qui a ses problèmes.
Instable.
Donc, en fait, la liberté qu'il appelle n'a pas l'air d'être la meilleure solution non plus pour son bonheur. Donc, ces manières de qualifier la vie de Félix résonnent avec eux, les propres impasses de leur vie.
Oui, et c'est intéressant de voir que c'est l'homme, enfin, le père, l'homme qui parle de liberté, et la femme, la mère, qui parle de folie. Il y a quelque chose quand même là qui résonne aussi du côté de certains paradigmes qu'on connaît, qui sont familiers. Et puis, il y a la forêt, bien sûr. Félix y vit suspendu aux branches du haut de sa cabane. La forêt comme les animaux, je dirais, est souvent convoquée en littérature. Et j'ai vu que tu as consacré un mémoire sur ces liens entre littérature et forêt. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces liens ?
Oui. La forêt dans la littérature est apparue comme une zone de fiction, en fait. Dans les textes médiévaux, c'est vraiment l'endroit par excellence où les héros vont vivre une aventure complètement différente du reste. Les chevaliers, par exemple, avant d'être intégrés à la cour, font leur initiation en forêt, où ils deviennent... parfois, certains passent par une sorte de folie, quittent leurs vêtements, se mettent à manger cru, jusqu'à souvent rencontrer un ermite qui commence à les remettre dans le droit chemin. Puis ensuite, après cette initiation, rejoignent la cour et sont aptes à devenir des chevaliers dignes de ce nom. Mais c'est aussi un lieu de rencontre pour les amants cachés. Donc c'est aussi un lieu d'ermitage, le lieu des fées. Et donc voilà, cette forêt s'est construite comme ça, comme lieu un peu de tous les possibles, mais séparée du reste de la vie. Aujourd'hui, elle a gardé un peu cette fonction, j'ai l'impression, dans ce que je peux lire, de littérature contemporaine et francophone principalement, de lieux où des personnages vont expérimenter des possibles.
Oui, être dans la forêt, c'est finalement un peu tourner le dos à la société.
Oui, et ça, ça fait partie de l'étymologie du mot forêt, qui vient de foresta, foris, qui signifie à l'extérieur de.
À l'extérieur de. Et alors, Anouk, est-ce que je rebondis, je oui. me permets sur cette question. Est-ce que tu penses que l'écrivain, par essence, est un observateur de la société et d'une certaine façon, il est, c'est comme s'il était un petit peu toujours dans cette forêt. Il observe et il est contre la société, tout contre, mais...
Alors, j'ai toujours du mal à dire ce qu'est quelqu'un ou quelle fonction par essence, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment beaucoup de manières de procéder. Je crois qu'il y a aujourd'hui des écrivains, des écrivaines très... très avec aussi, avec la société, certes observateur, observatrice, mais très finalement intégré, partisan. Par contre, oui, bien sûr que l'écriture nécessite un retrait réflexif. Et dans le meilleur des cas, oui, ce retrait permet d'ensuite d'écrire les choses d'une autre manière, avec d'autres lunettes, quoi. Après, quant à dire que les écrivains écrivent depuis leur forêt,
depuis un côté un peu qui pourrait sembler, oui, un peu sauvage, un peu comme s'il y avait un retour aux sources,
dans l'écriture.
Dans l'écriture, dans la posture de l'écrivain, vraiment dans la posture de quelqu'un qui observe, qui est en recul, en retrait, et qui est capable de donner, dont l'objectif serait de donner un autre regard sur la société, un autre point de vue, de changer un petit peu les mentalités, la façon de voir les choses, de bousculer les codes, de dérouter.
Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un aléa entre... Parce que je pense que pour écrire aussi, il faut beaucoup participer. Je ne crois pas en le retrait absolu. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma manière de procéder. Et je pense que pour comprendre les choses et les décrire avec justesse, il faut aussi bien les comprendre et être aussi avec, pas forcément dans le sens d'être d'accord, mais d'aller...
D'être parmi les hommes, en fait, parmi voilà. les autres, parmi la communauté.
Oui.
Très bien. Alors, concernant cette fois, en fait, la structure de ton récit, la forme, on peut dire, on retrouve dans ton livre une structure qui est composée de courts chapitres, qui font s'alterner deux lieux, en fait deux scènes, mais pas vraiment deux voix, puisque c'est toujours la même jeune femme qui parle, qui est la narratrice. Et tu as écrit le livre sous la direction d'Olivia Rosenthal. Et il me semble retrouver parfois la patte de cet auteur dans la structure de ton récit. Dans son best-seller « Que font les reines après Noël », Olivia Rosenthal alterne entre sa vie personnelle et des parallèles avec la vie animale. Elle utilise tout le long de son livre le « vous » pour s'adresser au lecteur, ce qui est assez atypique. Tout comme l'usage dans ton roman « Félix Silvestris » du « tu ». Est-ce que tu peux nous dire, Anouk, comment tu as écrit ton livre ? Est-ce que pour toi, l'écriture, c'est difficile ? Et est-ce que tu as des habitudes, voire des rituels d'écriture ? Combien de temps aussi tu as mis pour l'écrire ? Ça a beaucoup de questions.
Alors, concernant Olivia Rosenthal, oui, c'était ma directrice de... ou tutrice, je ne sais plus comment on disait, pour l'écriture de ce livre dans le cadre du master. Donc, ce master a duré 2 ans. Et donc, j'ai commencé au bout de quelques mois, parce que je suis arrivée dans le master avec un projet de poésie qui était assez différent. Et donc, à partir du mois de janvier, j'ai commencé à écrire ça. Il a été publié donc en janvier 2018 et il a été publié là en janvier 2022. Ça fait 3 ans. Si on compte en année pleine. Après, mes années d'écriture n'ont pas du tout été pleines. Mmh. j'ai dit 3 ans, 4 ans. Parmi ces 4 ans, il y a eu parfois des mois sans écrire, ce qui n'était pas un problème pour moi. Je savais que j'allais y revenir, mais que j'avais besoin de ces moments de pause. Parfois aussi parce que, par manque de temps, parce qu'il faut gagner sa vie aussi, parce que plein de choses. Donc j'ai un peu du mal à quantifier, c'est la même chose à l'échelle de mes journées ou des semaines, j'ai pas de rythme et j'ai pas eu du tout de rigueur d'écriture et j'ai eu la chance de pas en avoir besoin parce que le master déjà était assez structurant pour le début et peut-être les 2/3 de l'écriture mm-hmm. du livre. Et c'est vrai que d'avoir ce contexte-là, à la fois un peu des déchéances, parce qu'on avait des moments d'études communes de nos textes dans le sein du master. Il fallait tel jour envoyer notre texte que les autres allaient lire, y compris le prof ou la prof qui était là aussi. Donc c'était mmh. souvent Olivia Rosenthal qui s'occupait aussi des séances collectives. Donc il y avait ces échéances-là. Et puis, simplement, le fait aussi de savoir qu'on était plusieurs, qu'on était une petite vingtaine là, dans le master, on était plusieurs à avancer en même temps sur nos romans respectifs. Et ça, en fait, ça crée une sorte d'attente implicite et puis de compagnonnage qui aide à ne pas
se sentir
abandonner.
Trop seule avec son livre, avec son travail.
Oui.
Ça crée une émulation qui, pour toi, t'a servi de cadre un petit peu minimum, mais qui t'a permis de mener ton travail à bien.
En effet. Et donc, Olivia Rosenthal, c'est en effet une autrice qui compte pour moi, dans le sens où ça a été ma révélation de littérature contemporaine quand mm-hmm. j'étais en prépa littéraire à 18 ans et que je lisais que des classiques. Et un jour, un prof m'a mis son livre « On n'est pas là pour disparaître » entre les mains, en me proposant de faire un exposé dessus. Ce qu'à l'époque j'ai vécu comme un petit privilège de pouvoir faire un peu autre chose que ce qu'on faisait d'habitude en prépa. Et en fait, ce livre m'a bouleversée. Donc c'est un livre qui parle de la maladie d'Alzheimer et qui mélange comme ça des narrations à la fois très personnelles, documentaires, et dans un mélange très, très perturbant où les mots eux-mêmes s'effacent, donc avec un travail de la forme qui était tout nouveau pour moi, quoi. Et ça m'a, à l'époque, ça m'a vraiment bouleversée et je me suis dit « Ah, mais en fait, il est possible d'écrire comme ça ». Donc là, ça a ouvert quelque chose en moi dont je n'ai pas fait grand-chose immédiatement. Mais par contre, quand il a été le moment là, de me mettre à l'écriture et de me dire « Bon, pourquoi pas faire un master de création littéraire », j'ai vu qu'Olivia avait cofondé ce master à Paris 8. Et ça m'a un peu appelée, quoi. Et ensuite, j'ai eu la chance de l'avoir comme tutrice pour travailler plus directement sur mon texte, dans lequel elle est assez peu intervenue. Enfin, c'était pas du tout une intervention massive, mais par contre elle l'a suivi, elle m'a donné son avis régulièrement, et c'est un avis qui a compté.
Ce genre de master en création littéraire, c'est assez nouveau, c'est assez récent en France. Je pense qu'il y a peu de structures comme ça ou d'initiatives en France. Il y en a, je pense, plus aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons où il y a des cours de creative writing, des choses comme ça. Mais en France, on est encore sur l'idée que l'écrivain est dans sa forêt, justement, est tout seul avec son œuvre, et qu'il n'y a pas de recettes, pas d'apprentissage, pas de cours. En fait, on revient un petit peu sur ces idées-là qui sont des idées romantiques, mais qui ne sont peut-être pas forcément vraies.
Oui, du coup, maintenant, les masters de création littéraire seraient un peu les ZAD en forêt de,
voilà, c'est
de
les ZAD
la nature. On est dans la forêt, mais ensemble.
Voilà.
Mais c'est vrai que c'est assez récent en France. Là, ils doivent avoir une petite dizaine d'années, ces masters, tandis que dans les milieux anglo-saxons, on est plus proche de 30-40 ans, je pense.
Ouais, installé.
Ouais. Et d'ailleurs, là, au mois de février, on a fait une rencontre collective avec 6 autres auteurs et autrices issus du master de ma promotion et de la promotion suivante. Et voilà, et on a pu se rendre compte à ce moment-là qu'il y avait déjà une petite cinquantaine, je crois, de publications issues de personnes qui ont fait le master de Paris 8. Et que là, le nombre d'inscriptions augmente de manière exponentielle. Et c'est le cas aussi du Master du Havre, qui a été vraiment le premier.
Il y a une demande pour ce genre de cours.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et un petit détail, mais le diable se cache souvent dans les détails, j'aime bien les petits détails. Comment tu comprends ce glissement assez récent aussi, finalement, du mot écrivain ou écrivaine au mot auteur ou autrice ?
Alors, je ne le vis pas comme un glissement, parce que j'ai l'impression d'avoir grandi avec plutôt ce mot auteur-autrice.
C'est une histoire de génération, alors, je pense.
Peut-être, oui. En fait, moi, ce mot d'auteur-autrice me renvoie à un discours qu'avait fait le nouveau directeur des Beaux-Arts de Toulouse à l'époque où j'y étais, qui s'appelait Yves Robert, et qui nous avait, au lieu de nous traiter d'artistes, nous avait dit: bon, vous êtes des auteurs et autrices, englobant là des pratiques un peu plus larges, et nous conférant une sorte de responsabilité aussi qu'il y a dans la notion d'auteur.
Mais alors, est-ce qu'un peintre, par exemple, ou un sculpteur, on aurait moins tendance à dire auteur ou autrice pour un peintre ou un sculpteur ? Pourquoi pour un écrivain ou une écrivaine ?
Bonne question. À vrai dire, je ne sais pas ce qui crée aujourd'hui ce glissement-là. Ce que je sais, c'est que c'est un terme qui me plaît plutôt pour vivre cette notion de responsabilité qui l'englobe, je crois. Et après, pour moi, si un sculpteur ou une peintre veut se dire autrice, je suis plutôt pour aussi. J'ai l'impression que ça peut être assez large.
C'est moins spécifique, en tout cas, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous lire Félice Silvestris, ton roman, ton premier roman ? Nous faire la lecture du début, par exemple. On t'écoute.
Oui, volontiers. Maman pense que tu as froid. Tu as forcément froid là-bas, dans ta forêt. Que dehors, par un temps pareil, malgré les constructions, les couvertures, les poêles à bois, malgré tout ça, dormir dehors l'hiver, non, on n'a pas idée. Je lui répète que les cabanes sont de vrais abris, que tu n'es pas seule, qu'il y a aussi la chaleur humaine. Mais elle continue. Les types dans la rue, c'est déjà terrible, mais toi, sa fille, dormir dans le froid, non. Elle ne peut pas, ne veut pas l'imaginer. Le téléphone entre l'épaule et la joue, j'ouvre la fenêtre. Un vent faible agite les branches fines de 4 pruniers sans feuilles. La lumière des lampadaires ne m'aide aucune aide. Pluie ou neige, c'est indiscernable. Je t'imagine en écouter la cadence irrégulière, nichée quelque part dans le trou d'un vieux tronc. Ça doit sentir bon la mousse et les champignons. Je dis à maman de ne pas s'inquiéter. Quand j'ai lâché mes affaires au milieu du studio, ça n'a fait aucun bruit. Il faut croire que le lino beige absorbe les ondes ou que les valises n'avaient plus rien à dire. Elles sont restées silencieuses sans savoir ce qu'elles faisaient là, pour combien de temps ni pourquoi. Je dois remettre mes pendules à l'heure et mes pieds sur terre, c'est ce que m'a dit papa quelques mois avant mon retour. La fuite doit cesser, ma fillotte, la fuite doit cesser, a-t-il ajouté en s'écoutant parler. Son sens des formules a toujours été supérieur à celui des réalités. D'accord. Je vais ranger mon costume d'exploratrice, démêler ma tignasse, réhydrater ma peau brûlée. Prendre soin de moi, m'a conseillé à son tour l'amie qui me prête son appartement. Elle a même laissé quelques produits de beauté pour m'encourager. Et surtout, la grande idée, me sentir chez moi. Malgré les objets et les voisins que je connais pas. Malgré mon absence de repères dans cette ville où je ne suis venue qu'une fois, il y a longtemps. Mon amie m'a préparé un lit et laissé quelques petits mots pour les choses pratiques, d'autres pour me faire sourire. On est bien d'accord que c'est du temporaire, juste en attendant. En attendant quoi ? Que je sache répondre à cette question. Alors je suis là, de retour parmi les miens, c'est officiel. Pleinement en prise avec le quotidien, concernée par tout ce que l'on nomme « monde ». Il me faudra sans doute du temps pour croire à nouveau à cette connexion en continu, mais je vais m'accrocher. Je vais plonger la tête dans la vie, la vraie. Il est trop tard pour me retourner et trop tôt pour un nouveau départ. Ici, il y a du pain sur la planche, du bon pain de mon pays qui n'a pas son égal. Du bon pain sur une bonne planche en bois, solide et durable. Auprès des miens, je serai quelqu'un de bien. Et toi, tu ne m'as pas entendu pour te sauver. Pendant longtemps, les forêts étaient loin, loin de nos plaines jaunes et de nos vacances bleues. Sans l'ombre d'un bois, sinon ceux des histoires du soir, avec des enfants perdus et des animaux qui parlent. La belette, souviens-toi, la belette qui riait fort et qui perdait le fil. Hé, la belette, arrête de bailler aux corneilles, le danger rôde, les humains sont là. Elle agaçait maman, la belette, avec sa voix si haut perchée. De temps en temps, les forêts débarquaient quand même dans la rubrique faits divers du journal local. Samedi, Madame R faisait son jogging hebdomadaire dans le bois de S, mais elle n'est jamais revenue. La jeune femme promenait son chien comme tous les soirs, mais autour de minuit, on a vu l'animal rentrer seul. L'adolescente venait d'avoir son bac, elle a disparu sans raison. Pendant longtemps, les forêts étaient loin, ou bien c'est nous qui les tenions à distance. Il y avait là un potentiel de disparition dont il fallait se garder pour préserver la vie tranquille, la seule qui valait.
Je reçois Anouk Lejzik pour son livre « Félix Sylvestris », merci Anouk. Et nous écoutons Anne Sylvestre, « Les gens qui doutent ».
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent, qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
j'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Anouk, dans ton roman Félix Silvestris, il y a une question qui revient comme un leitmotiv, comme une ritournelle. En début de chapitre, tu écris « Et ta sœur, elle en est où? Elle fait quoi ?» À laquelle la narratrice répond « Oh ma sœur, elle prend l'air. Oh ma sœur, elle se cherche. Oh ma sœur, elle veut du collectif. Oh ma sœur, elle se réoriente, elle se recentre, elle prend son temps, elle prend de la hauteur, elle canalise son énergie, elle s'endurcit, elle affine son projet, elle affûte ses armes. » Est-ce que cette question, qu'est-ce que tu fais en ce moment, on te l'a souvent posée à toi ou à tes parents?
C'est une question, oui, qu'on me pose régulièrement, comme tout le monde, je pense, et qu'on a aussi beaucoup posé à mes parents quand la réponse n'était pas évidente, parce que j'ai fait des choses différentes dans ma vie. Alors voilà.
Ok. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture ou de documentaire d'ailleurs?
Les deux dans la même réponse. En ce moment, je travaille sur un projet de poésie documentaire, en fait, sur les mondes forestiers. Donc je dis les mondes au pluriel parce que il n'y a pas la forêt, mais plein de forêts différentes qui englobent des milieux forestiers différents aussi, entre la forêt publique et les forêts des châtelains français. Il y a parfois les mêmes essences d'arbres et pour autant, ce sont des gestions différentes et des accès différents qu'on a à ces forêts et des milieux sociaux aussi très différents qui les entourent. Alors j'investigue un peu dans ces champs-là. Là, j'écris aussi au fur et à mesure de ma formation. Et je verrai ce que donne cette matière. Et j'ai aussi un autre projet de roman en tête, avec quelques pages de posées, mais qui reposent en attendant.
D'accord. Tu peux nous dévoiler un petit peu le sujet de ce futur roman ou est-ce que tu préfères ne pas en parler à ce moment de l'écriture qui est juste à son démarrage?
Je pense qu'il est un peu tôt, donc je vais garder le suspense.
D'accord, tu reviendras nous voir alors pour ton deuxième roman. Alors pour clore cette émission, voici un second passage de Félix Silvestris, un passage que j'ai choisi parce qu'il montre bien la soif de liberté de cette sœur encagoulée, son anticonformisme, et aussi parce que ce court chapitre se termine par une énumération et que j'adore les énumérations. Allons-y. Être la même chaque jour, tu ne pouvais pas. Être celle qu'on attendait que tu sois, tu ne voulais pas. Te satisfaire de cette vie-là, impossible. Plus rien ne te guidait, hormis tes voix, trop nombreuses pour être d'accord, trop imprévisibles pour être domptées. Alors tu suivais celle qui parlait le plus fort, à tort ou à raison. Ton corps devenait une maison ambulante, des pilotis à la place des pieds. Tu n'as pas chuté, tu ne t'es pas brisé, tu as simplement bifurqué sur le chemin d'à côté. Tu as fini par quitter ton psy, ton travail, ton appartement, les injonctions par milliers. Tu as opté pour la bohème, avec un grand B, invoquant nos possibles origines manouches avec fierté. Tu sentais que tu avais ce truc-là dans le sang, la musique, le cirque, les voyages, que tu n'avais jamais osé exprimer pour ne pas décevoir maman qui t'avait déjà inscrite au volet. Tu as tiré un coup de fusil en l'air, sorti un drapeau noir, pris tes jambes à ton cou. Tu t'es mise à faire du stop, à voyager clandestinement dans les trains, une adolescence en bonne et due forme, 15 ans après celle que tu n'avais pas osé vivre. Maman disait folie, papa disait liberté. Pas de nouvelles pendant une semaine, puis tu nous écrivais depuis une autre ville, un autre pays, et prise d'une grande idée qu'il te fallait suivre sans plus tarder. La vie, c'est le monocycle, le diabolo, la flûte irlandaise, la physique quantique, les chants grégoriens, l'argile, le troc, les fleurs comestibles, le mime, le crochet, le sténopé, l'architecture troglodyte, l'apiculture, le fusain, l'espéranto, et puis la forêt. Merci beaucoup, Anouk. Félice Sylvestris, c'est un premier roman touchant, délicat, profond, qui sonne juste et évoque avec beaucoup de subtilité la question du choix, de la direction à prendre, de la liberté dans nos vies. Félice Sylvestris est sortie aux éditions du Penseur, Penseur avec un A, une toute jeune maison d'édition à découvrir, créée par Jérémy M. à Jassan, dans l'Ain. Eh bien, je n'aurai qu'un mot, ou plutôt deux, encore heureux.